On va enfin monter, là c'est l'ascension de la colline où un mausolée a été fait. Et Narcisse nous arrête pour nous montrer. C'est quoi là-bas?
La colline de la résistance. C'est là-bas, la colline Mouira. C'est celle que tu vois devant.
Et maintenant, c'est des champs.
Et nous quoi, il y a Chamagoul.
C'est cultivé maintenant, c'est des champs.
Et on trouve encore des restes.
Tous les restes sont ici, là où on va.
On va l'arriver tout en haut, au milieu des arbres. Toujours des espèces de pins. On est dans une espèce de petite clairière entourée d'arbres. Et au milieu, il y a une espèce de monument, de grandes, grandes stèles. C'est un mausolée très simple, très sobre, aucun signe.
C'est le cimetière des héros. C'est là que repose, entre autres, Bilal, mon grand frère. En fait, ils ont rassemblé les os, tous les os, tous les restes qui étaient éparpillés par-ci, par-là. On a tout rassemblé ici, à l'intérieur.
Les chiffres sont complètement fous, on a du mal à comprendre de tels chiffres. 50 000 personnes de toutes les communes avoisinantes, 50 000 Tutsis réfugiés ici, et 1 000 survivants après 3 mois de siège, c'est ça?
Eux, ils disent qu'ils étaient autour de 70 000. Les survivants, les rescapés, c'est entre 1400 et 1500.
Moins de 1 sur 50 qui a survécu.
Comment veux-tu que j'oublie avec toutes ces cicatrices? Tu vois ce qu'ils m'ont fait? Comment veux-tu que j'oublie? Je ne peux pas oublier ça.
Quand
ils sont arrivés, les Français, ils nous ont dit, est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de tuer des gens? Nous sommes venus, nous leur avons montré les cadavres, les corps. Nous leur avons montré ce qui s'était passé ici. Alors ils ont fait demi-tour. Quand ils ont fait demi-tour, les Hutus nous ont massacrés ici. Alors ils sont revenus. L'armée française est revenue en force après pour constater que ce n'était que des cadavres, des corps jonchés cette colline. Pourquoi vous venez demander des informations? Vous demandez ce qui s'est passé alors que vous savez ce que vous avez fait. Pourquoi?
Est-ce que j'étais là, moi?
Kouvgongo, vas-y, tu dis quoi? Si c'est pas toi, c'est ton oncle ou ton ou ton cousin.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Guy Vanctil, la colline de la résistance, Bicécéro, Rwanda.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors, on est en train de monter, là c'est l'ascension de la colline, où un mausolée a été fait. Les narcisses nous arrêtent pour nous montrer. C'est quoi là-bas?
La colline de la résistance. C'est là-bas, la colline Mouira. C'est celle que tu vois devant.
Et maintenant, c'est des champs.
C'est cultivé maintenant, c'est des champs.
Et on trouve encore des restes.
Tous les restes sont ici, là où on va.
On va l'arriver, tout en haut, au milieu des arbres. Toujours des espèces de pins. On est dans une espèce de petite clairière, entourée d'arbres. Et au milieu, il y a une espèce de monument, de grande, grande stèle. C'est un mausolée, très simple, très sobre, aucun signe.
C'est le cimetière des héros. C'est là que repose, entre autres, Bilal, mon grand frère. En fait, ils ont rassemblé les os, tous les os, tous les restes qui étaient éparpillés par-ci par-là. On a tout rassemblé ici, à l'intérieur.
Les chiffres sont complètement fous, on a du mal à comprendre de tels chiffres. 50 000 personnes de toutes les communes avoisinantes, 50 000 Tutsis réfugiés ici, et 1000 survivants après 3 mois de siège. C'est ça?
Eux, ils disent qu'ils étaient autour de 70 000. Les survivants, les rescapés, c'est entre 1400 et 1500.
Moins de 1 sur 50 qui a survécu.
Cabana, Narcisse.
Narcisse Cabana.
J'avais 35 ans, 94.
Maintenant 45. Et ta famille? Tu as de la famille?
Non, ils ont tué tout le monde. Il n'y a plus que moi. Ma mère, mon père, ma femme et mes enfants, et les parents. Mes oncles, tous. Il n'y a plus que 2 membres de ma famille.
Narcisse Cabana.
1 174 000, selon les chiffres officiels de 2003. 500 000 selon d'autres sources, voilà, pour les victimes. Parmi elles, il y aurait entre 2% et 10% de Hutus modérés. Il y aurait 300 000 rescapés. Il faut rappeler que, au mois d'août 1994, à l'issue de ce génocide, entre 600 000 et 1 million d'exilés sont revenus au Rwanda. Voilà pour les victimes. Et les tueurs, environ 250 000, auteurs directs de crimes ou complices directs et actifs. Entre 250 000 et 2 millions de personnes impliquées à un degré moindre, pillage, destruction et incendie, et 20 000 génocidaires de catégorie 1, c'est-à-dire organisateurs, planificateurs, hiérarques, locaux, miliciens et tous ceux ayant appelé au meurtre, journalistes, préfets, bourgmestres, etc. Voilà, en quelques mots secs, la fiche du génocide, les chiffres du génocide du Rwanda, sur lequel nous revenons à nouveau 11 ans plus tard. Mais on revient à Bicécéro. On revient sur cette colline de la résistance. On revient, on mène au pas, dans les pas de ceux qu'on appelle des héros. Vous avez entendu ce mot héros, vous avez entendu ce mot résistance. Or, dans les chiffres du génocide, il n'y a pas un seul héros, il n'y a pas un seul résistant. Comme s'il n'y avait pas de résistance, comme si les résistants avaient été oubliés. Or, il y en eut durant ce génocide. On en a parlé hier, il y a eu des résistances spontanées un peu partout. Les hommes et les femmes et les enfants qui ont été massacrés au cours de ce génocide n'étaient pas des moutons, comme on l'a trop souvent dit. Ils ont résisté et parfois même ont organisé la résistance. Et spécialement ici à Bicécéro, sur ces collines, ils se sont organisés, ils se sont battus en s'organisant et ils ont tenu jusqu'à la fin juin 1994. Ils se sont battus avec des bâtons, avec des pierres. Ils nous disaient hier comment les femmes et les enfants allaient chercher des pierres, les apportaient aux hommes qui se battaient. Et si bien que les génocideurs, tous ceux qui avaient organisé ce génocide, qui voulaient qu'il n'y eût aucun témoin à survivre pour survivre, se sont concentrés sur Bicesero, ont mis tous leurs efforts pour en finir, pour éliminer totalement ceux de Bicesero. Ils n'y sont pas parvenus tout à fait. Il y a, on pense, environ entre 800 et 1000 rescapés de ce lieu terrible où il y eut par moments jusqu'à 50 000 Tutsis qui s'étaient regroupés cherchant protection et se battant contre leurs assassins, contre leurs bourreaux. C'est ces hommes qu'on a rencontré avec Guive et qui nous ont fait le récit de leur résistance. On va voir comment aujourd'hui cette histoire nous concerne et va nous hanter longtemps, nous en tant qu'êtres humains, mais aussi nous en tant que Français, puisqu'il y a une implication française dans ces massacres de Bicesero. Il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui a été éliminé, qu'on a passé sous le tapis ou passé sous silence en ce qui concerne Bicesero. Et ça fait partie de ces choses sur lesquelles il faudra bien un jour que la France revienne. Il faudra bien qu'un jour la lumière soit faite sur ce que la France a fait au Rwanda et sur ce que la France, l'armée française en l'occurrence, a fait à Bicesero. C'est notre sujet aujourd'hui. La colline de la résistance, Rwanda.
Pourquoi ici c'était l'exception? Pourquoi ici c'est devenu le symbole de la résistance au génocide?
Depuis des millénaires, nos ancêtres se sont défendus comme nous l'avons fait. En 1959, ils se sont défendus vaillamment. Et ils étaient plus vaillants d'ailleurs. Ils les ont même vaincus.
Mais en 1973, ça a toujours été pareil.
C'est un héritage.
Et il fallait être à la hauteur de vos ancêtres, qui étaient battus et qui avaient repoussé.
Nous avons refusé de se faire tuer sans se défendre, comme des mouches. Non, nous avons dit non.
Et les Français alors? Quand est-ce qu'ils sont arrivés?
Ils sont arrivés ici le 27 juin 1994. Ils sont venus, ils ont demandé s'il y avait des tueurs, s'il y avait des gens qui massacraient d'autres. Nous avons dit oui. Ils nous ont demandé de les montrer du doigt. Nous avons montré les cadavres, les corps qui jonchaient le sol. C'était nos femmes, nos enfants, nos frères.
Ils sont repartis.
Ils sont repartis. Nous les avons revus le 30 juin 1994.
Et entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé?
C'était effroyable. En fait, ils nous ont exterminés. Ces trois jours, ils nous ont exterminés. Ils ont tué tout le monde.
Il restait combien de rescapés le 27 quand les Français sont arrivés?
C'était autour de 3000. Quand ils sont revenus le 30, les Français, nous étions 1000, autour de 1000.
C'est pas la France qui tenait les machettes. On connaît l'expression fameuse, c'est pas la France qui tenait les machettes. Certes, c'est pas la France qui tenait les machettes, mais quelle est l'implication, quelles sont les responsabilités de la France dans les génocides du Rwanda, le génocide des Tutsis et des Hutus modérés, comme on dit. La lumière n'est pas faite. Une mission d'enquête parlementaire en 1998 est loin d'avoir apporté les réponses aux questions qui persistent. En tous les cas, à Bicesero, au moins il y a un cas de non-assistance à personne en danger de la part des militaires français. Continuons d'écouter le récit qu'en font les survivants aujourd'hui.
Comment ils étaient équipés, les Français qui sont venus?
Ils sont venus dans des véhicules militaires. C'était des blindés. Ils avaient des armes montées sur des véhicules.
Et ils étaient combien à peu près?
C'était une centaine d'hommes armés jusqu'aux dents. On montrait aux Français où se trouvaient les assaillants. Ils étaient là-bas, ils étaient sur cette colline.
Allez, vous montrez là juste au-dessus, c'est à 50 mètres à vol d'oiseau.
Ils étaient très très nombreux. Ils couvraient toute la colline. Quand on leur montrait nos bourreaux, tout ce qu'ils ont dit, dans 3 jours, on revient dans 3-4 jours. Essayez de rester en vie.
On venait de
leur montrer nos morts. En fait, il n'y avait pas de volonté de porter secours.
Est-ce qu'ils vous ont donné des vivres? Est-ce qu'ils vous ont donné des médicaments? Est-ce qu'ils vous ont donné moins d'assistance?
Quand ils sont venus le 27, ils ne nous ont rien donné, rien du tout.
Et là, vous nous montrez là, sur ta main, oui, qui est complètement tailladée d'une énorme cicatrice.
En fait, quand ils sont arrivés le 27, les Français, nous sommes sortis de partout. Nous nous sommes regroupés et nous sommes rapprochés des Français. Évidemment, les Inalam étaient juste à côté et les autorités. Et là, ils ont constaté que nous étions encore nombreux. Les Français, après nous avoir posé leurs questions, 2-3 questions, ils sont repartis tranquillement. Alors
Et après,
ils nous ont rendu un très mauvais service. Ils viennent nous demander qui nous tue, puis après tu repars sans nous aider, sans nous prêter secours, rien du tout. Ils sont repartis comme ils étaient venus. La balle, je l'ai eue le 28.
Ah oui, là c'est une balle qui a traversé le pied, il nous montre.
Ceux qui avaient des armes allaient devant et ils nous tiraient à bout portant, comme des lapins. Alors les autres attaquaient par après. Pendant 3 jours, nous avons essayé de rester en vie. C'était ça, rester en vie. Gagner 1 heure, 1 minute, 1 seconde.
C'est-à-dire que s'ils avaient voulu, l'armée française, avec son équipement, avec ses armes, ses blindés, avec les tourelles, aurait pu s'interposer.
Bien évidemment, s'ils étaient restés là-bas et qu'ils avaient appelé s'ils voulaient du renfort, parce qu'il n'y avait même pas de menace, les Inalam les ont accueillis. Ils avaient même peur d'eux. C'était impossible. On serait resté beaucoup plus nombreux. Quand ils sont revenus, ils étaient avec des journalistes. Alors, nous sommes courus vers eux et nous les avons implorés de nous aider, de nous porter secours. Alors, à ce moment-là, les massacres ont cessé. C'était le 30 juin 1994.
Alors parmi ces journalistes, il y avait des journalistes français, dont Patrick de Saint-Exupéry, dont Vincent Hugeux, qu'on va retrouver dans un instant. Mais d'abord, on va aller voir Eric Zabaïmana. Eric Zabaïmana, c'est lui qui a parlé à l'époque avec les militaires. Pourquoi? Parce que, tout simplement parce qu'il parle français et que parce qu'il est l'instituteur. Et c'est lui qui a négocié avec eux, qui a eu l'idée, qui a eu confiance dans ces militaires qui arrivaient et qui est sorti de sa cachette, ainsi que les autres résistants, comme il dit, il n'y avait plus que l'espérer vivre encore un peu, mais évidemment après cette longue résistance, les survivants étaient épuisés. Et donc c'est Eric qui a parlé avec les militaires à l'époque, avec les militaires français, et qui s'en souvient, c'est chez lui que nous nous dirigeons.
Donne-moi la cible.
J'ai fait peur aux petits.
Ils ne sont pas habitués.
C'est-à-dire qu'on est loin de Kibouye, qui est loin de Kigali. Après Bicicero, encore 35 minutes de piste, qui deviennent de plus en plus petites, jusqu'à arriver chez l'instituteur.
Moi, je m'appelle Zaviman Eric. Je suis maire du district Itabi. Mais avant, j'étais instituteur.
On est tout près de Bicicero?
Oui. À une dizaine de kilomètres, peut-être, d'ici.
Ouais.
C'est dur de revivre la situation quand on essaie d'y penser, ça. C'est un peu difficile. À Bicicero, il y avait beaucoup de gens, on estimait environ à 50 000 personnes qui venaient des communes de Gisita, de Rwamatamu, de Gisovu, même de Gitesi. Alors, les tueries ont commencé tous les mois d'avril, on essayait de se défendre avec des pierres, avec des lances, des armes traditionnelles. Vu le nombre qui était là-bas, on pouvait essayer de se défendre un tout petit peu. Mais cela n'empêchait pas que les personnes meurent.
Tous les jours, il y avait des attaques.
Chaque jour, depuis lundi jusqu'au dimanche, et ça le prenait chaque jour. Je dirais les 3 mois. Oui, les 3 mois. Voilà. Sur les réfugiés, nous avons appliqué, il y a une mission française qui venait sauver les gens. Nous avons eu un peu d'espoir qu'ils pourront sauver quelques personnes. Ce jour-là, le soir même, ils sont venus, je suis allé à les rencontrer, moi seul.
Qui ça, qui est venu?
Les militaires français à bord des véhicules, un gros cortège. Je crois qu'il y avait des journalistes aussi, mais je ne sais pas de quelle radio qu'ils travaillaient. Je suis allé à les rencontrer pour voir si les Irmans viennent nous sauver. J'ai pu parler avec eux.
Qu'est-ce qu'ils savaient de ce qui se passait? Qu'est-ce qu'ils comprenaient? Qu'est-ce qu'ils vous demandaient, ces soldats français?
C'est moi qui les a attaqués en premier lieu. Je leur ai dit, si vous venez nous sauver, nous sommes menacés. Les personnes sont en train d'être tuées. Vous voyez les blessés, vous voyez les morts. Ils étaient un peu partout sur la route. Je leur ai expliqué ce qui se passait. Ils ne voulaient pas comprendre. Ils disaient, non, ce n'est pas possible que les militaires et les personnes armées viennent tuer la population. Alors, j'ai montré les cadavres qui jonchaient l'heure de la route. Alors, fin de fin, ils ont vu que ce que je disais est vrai après avoir observé les morts, les cadavres qui étaient encore frais, les blessés de balles. Alors, ils ont dit, oui, nous sommes venus pour vous sauver, mais retournez dans vos cachettes, on reviendra dans 3 jours. Alors, nous avons été désolés, nous avons trop insisté. Si vous venez vraiment nous sauver et que vous n'êtes pas prêts à nous protéger, mettez-nous devant vos chars et amenez-nous à la province.
Voilà, ils auraient pu faire une escorte pour les survivants.
Et ils n'ont rien fait.
Qu'est-ce qu'ils vous disaient?
Ils ont dit qu'ils ne sont pas prêts. Alors, si vous n'êtes pas prêts, c'est-à-dire que votre mission réellement n'est pas de venir nous sauver. Si vous êtes des militaires, vous avez des fusils, vous avez des chars blindés, vous avez tout ce qu'il faut pour sauver les gens, alors ils nous ont laissés. J'ai trop insisté, j'ai demandé, j'ai supplié, j'ai essayé de les convaincre, ils n'ont pas voulu me comprendre. Ils ont rebroussé chemin.
Ils sont restés combien de temps avec vous?
Environ une heure de discussion. Ils m'ont dit, nous venons pour vous sauver, mais aujourd'hui nous ne sommes pas prêts. Nous retournons à Kibouye pour se préparer. On revient dans 3 jours.
C'est tout.
C'est ce qu'ils ont dit. Cachez-vous comme d'habitude. C'est ce qu'ils ont dit. C'est-à-dire, mourrez comme d'habitude.
cachez-vous comme d'habitude, c'est-à-dire mourrez comme d'habitude. Il faut bien insister sur le fait qu'il s'agit de militaires entraînés, dotés d'équipements modernes, et que évidemment ces unités pouvaient tout à fait s'interposer avec un minimum de risque pour les hommes, sinon pas de risque du tout, et enrayer ces massacres. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Quels étaient les ordres? Quels étaient leur état d'esprit? Tout ça est resté pour l'instant dans le flou. Il s'agit de quelque chose de très grave, parce qu'encore une fois, on le disait hier, c'est quelque chose qui a été fait ou qui n'a pas été fait, en tout cas, mais tout cela en notre nom, à nous tous, citoyens de ce pays. En tout cas, j'évoquais tout à l'heure la commission d'enquête parlementaire de 98 qui a laissé ce sujet dans l'ombre et n'a pas apporté toutes les précisions qui sont nécessaires. C'est en tout cas le point de vue de François-Xavier Verschave de l'association Survie, qui depuis des années ne cesse pas de travailler à ce que la lumière soit faite sur le génocide du Rwanda.
Dans l'affaire de Bicécéro, vous savez, c'est ces collines où résistaient encore plusieurs milliers de Tutsis avec des cailloux, avec des bâtons.
C'est une résistance héroïque des Tutsis du Rwanda.
Bon, il y a 4 ou 5 journalistes qui ont pressé l'armée française d'aller sauver ces gens-là, y compris Patrick de Saint-Exupéry. Or, la mission parlementaire arrive à rendre compte de Bicécéro sans citer Patrick de Saint-Exupéry, qui est en quelque sorte l'initiateur de la mission d'information parlementaire, puisque ce sont ses articles qui l'ont déclenché. Or, dès ces articles, et même dès juin 1994, Saint-Exupéry expliquait qu'il y avait des choses tout à fait troublantes dans le fait qu'on ait attendu 3 jours pour aller spectaculairement sauver des rescapés, alors qu'on savait qu'ils étaient en train d'être massacrés et qu'on les avait découverts donc 3 jours plus tôt, le 27 juin.
Un autre témoignage recueilli par notre consoeur de France Culture, Laure de Vulpian, le témoignage d'un ancien membre du GIGN, aujourd'hui retraité, qui affirme que des militaires français ont formé des miliciens rwandais, en 1992, miliciens qui ont pris part au génocide de 1994, un témoignage tout à fait remarquable qui a été diffusé sur France Culture le 22 avril dernier.
Donc vous êtes l'adjudant-chef Thierry Pregnot.
Oui, c'est ça.
Vous êtes allé au Rwanda en opération 2 fois.
La première fois, c'était en 92, où j'étais envoyé là-bas pour former un groupe d'intervention pour la protection du président Habyarimana.
La garde présidentielle.
La garde présidentielle, c'est ça.
Et cette garde présidentielle, en fait, elle a été formée sur le modèle du GIGN français.
C'est ça, oui, exactement. On a été envoyé là-bas pour ça. On leur a fait des tests physiques comme on le fait chez nous, bon, un petit peu moins poussé. Et on les entraînait physiquement au tir et à l'investigation comme on le fait chez nous, avec les moyens du bord, bien sûr, local. Le président Habyarimana avait demandé au gouvernement français d'envoyer des militaires pour former sa garde présidentielle.
Plus tard, la garde présidentielle, elle a peut-être servi à autre chose.
Malheureusement, oui, mais bon, j'ai fait mon boulot de militaire, comme on me l'a demandé. Mais j'ai eu les renseignements comme quoi les gars que j'avais formés avaient effectivement participé au massacre.
Et puis vous êtes revenu en 1994, dans le cadre de l'opération Turquoise.
Au sein du COS, commandement des opérations spéciales. C'est un ensemble d'unités de différentes origines, des RPIMA, les commandos de l'air, commandos marines, 13e RDP, GSIGN... Voilà, tout un ensemble d'unités d'élite qui sont envoyées dans des opérations extérieures assez pointues.
Quelle était votre mission?
C'était d'intervenir sur des massacres soi-disant de Hutus qui seraient massacrés par les Tutsis. Et rendu sur place, on s'est rendu compte au bout d'une quinzaine de jours que c'était pas du tout ça, que c'était complètement l'inverse, c'était les Hutus qui zigouillaient les Tutsis.
Un témoignage intéressant mais un peu étonnant. On a peine à croire quand même que les militaires soient tenus dans l'ignorance ou ignorent à ce point quelle était la situation au moment où ils arrivent, c'est-à-dire Fin juin 1994, alors que les massacres ont commencé le 7 avril de la même année. C'est un peu curieux. Quel était leur état d'esprit? Voilà Vincent Hugeux, qui est reporter à l'hebdomadaire L'Express, qui se trouvait sur place à l'époque, le 25 juin 1994. Il arrive au Rwanda dans le cadre de l'opération Turquoise et il se trouve avec d'autres journalistes autour de Bicécéro. Et il constate avec ses confrères des signes évidents de massacre et il rencontre un détachement de militaires français. Il leur signale de très probables massacres en cours. Et il toujours, malgré ça, aujourd'hui, 11 ans après, on a quand même toujours autant de mal à expliquer la lenteur de nos vaillants militaires. Vincent Hugeux.
Il est très facile de faire preuve d'esprit sarcastique vis-à-vis de ces militaires. Il faut quand même imaginer ce qu'est l'univers mental dans lequel ils évoluent. Les gens qui vont se déployer sur Turquoise sont aguerris, sont des combattants, sont pour certains familiers des opérations en terrain hostile, et surtout, ils ont la conviction, non pas qu'ils vont découvrir une sorte de cimetière à ciel ouvert et sans sépulture, mais un champ de bataille entre une armée rwandaise régulière et une rébellion venue de l'étranger. Or, c'est pas ce qui se passe. À ce moment-là, il s'agit bien, et depuis un certain nombre de semaines, de massacres organisés, de massacres méthodiquement préparés, où l'on retrouve, c'est vrai, dans l'exécution du pogrom permanent, un attelage entre armée régulière, garde présidentielle, miliciens interahamwés, supplétifs locaux, etc. Bon, le tout mené, stimulé, houspillé par ici un préfet, là un homme d'affaires, là le directeur de l'usine à thé de Guissovou, etc.
Donc des prêtres
et parfois effectivement des ecclésiastiques.
Tout ça pour dire que les soldats que vous avez croisés n'avaient aucune conscience, les soldats français, donc n'avaient aucune conscience d'arriver dans un génocide en cours.
C'est en tout cas l'impression que j'ai recueillie, c'est l'impression que partagent d'autres confrères français qui ont été présents, notamment sur l'épisode de Bicécéro, je pense à Patrick de Saint-Exupéry, du Figaro, qui avait d'ailleurs livré un récit parfaitement saisissant de ce choc culturel entre des Français militaires et une situation qui est en décalage absolu avec ce à quoi ils avaient été préparés. Et certains d'entre eux ont d'ailleurs vécu ces épisodes de manière traumatique. Donc bien sûr que ça a laissé beaucoup de traces dans les esprits, les cœurs et les mémoires.
Ça empêche de dormir et ça vous donne des cauchemars. On est là, on est très peu, on essaie d'être partout, mais on peut pas être partout. Et les gens continuent à se trucider, et on peut pas être partout. On peut pas les empêcher. On empêche ceux qu'on voit, mais les autres, ils s'en tuent tous les jours, et on pouvait rien faire. C'est ça le plus terrible, c'est qu'on pouvait pas aller où on voulait, et on pouvait pas intervenir partout.
Thierry Prugnot, ce militaire, cet adjudant retraité, il faut rappeler que depuis longtemps la France soutenait le pouvoir hutu du président Habyarimana, un soutien politique, un soutien militaire contre le FPR. Quel a été réellement le but de l'opération Turquoise? Les interprétations, les soupçons, les accusations persistent avec malgré le temps, et on pense que parmi les versions, parmi les soupçons, parmi les accusations, il y a celle que cette opération avait pour but de venir en aide au gouvernement hutu contre le FPR et permettre au gouvernement hutu et donc à une partie des génocideurs de se réfugier, de s'exiler vers le Zaïre. C'est l'une des versions. Encore une fois, sur tous ces points, la lumière n'est toujours pas faite. Le travail se fait, les historiens travaillent, les enquêtes continuent, mais bien sûr que pour les rescapés, pour tous, il y a une urgence, je dirais, en tous les cas, une importance très grande, à savoir ce qui s'est passé à Bicêtre et au Rwanda en général.
Alors, 94, Turquoise. Votre mission, c'est quoi ?
Turquoise. Intervenir au Rwanda pour faire cesser le génocide. Génocide perpétré par les Tutsis sur les Hutus. Et en fait, c'était pas ça. Puisque s'est aperçu que c'était l'inverse qui se passait.
Alors comment ? Voilà, on va raconter un peu le fil chronologique.
Nous rentrons au Rwanda un 19 juin, on arrivait du Zaïre, et là on est acclamé par des Rwandais qui semblaient être des Hutus, et qui semblaient aussi être des victimes, qui en fait étaient les génocidaires, mais ça on ne le savait pas forcément. Et on est acclamé comme des héros. Alors qu'en fait, c'était eux qui zigouillaient et qui tuaient les pauvres Tutsis. Mais on s'en est rendu compte que 15 jours après.
Pendant ces 15 jours, qu'est-ce que vous avez fait ?
On a regardé. On regardait. On voyait les gens tous les soirs qui se tiraient dessus. On disait, bah tiens, c'est les Tutsis qui zigouillent les Hutus. On avait hors de pas bouger, surtout pas bouger, de rien faire, de pas tirer, de rien faire. Et ça a duré une quinzaine de jours.
Vous partiez en opération ?
Enfin, en opération, non, puisqu'à l'époque, on faisait de la surveillance, du renseignement, voilà. Ça, c'était la mission première au départ. Tous les jours, on partait avec différentes unités. Bon, en l'occurrence, c'était le 13e RDP. Et avec le collègue, on se disait, on allait interviewer les gens à droite, à gauche, et les gens nous parlaient d'une vallée, Bicêtre, où il y aurait des rebelles Tutsis, armés jusqu'aux dents. Bon. Et tous les jours, on entendait parler de cette vallée. Et un jour, on a désobéi. Ça se fait pas pour un militaire, mais on a désobéi.
Pourquoi ? C'était quoi les ordres ?
Eh ben, les ordres, c'était surtout pas aller là-bas. Les ordres de notre propre chef, c'était de surtout pas aller là-bas.
Qui votre chef ?
Le commandant marin Gillier, commandant de la marine, qui nous avait interdit absolument d'aller là-bas.
Il vous donnait des raisons ?
Non, pas du tout, non. Mais il voulait pas qu'on y aille. C'était peut-être un peu trop chaud pour lui, donc il voulait pas qu'on y aille. Et nous, on a décidé d'y aller.
Qui ?
Eh bien, avec le copain du 13e RDP, je ne vais pas citer le nom, qui bon, s'est concerté, on a dit, bon, ben, demain, on va à Bicêtre. Et c'est là qu'on a découvert le Poteau Rose, en fait. C'est une vallée où 10 000 Tutsis avaient été tués. Il en restait 800, dans un état lamentable. Et c'était lamentable, lamentable. Là, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout les Tutsis qui tuaient les Hutus, c'était les Hutus qui se tuaient les Tutsis. Et qui les massacraient, carrément massacraient, tous les jours, tous les jours, tous les jours.
Vous écoutez la radio-télévision libre des mines communes. Dans 12 minutes, il sera 10 heures dans le blindé de la RTLM. Nous sommes là pour vous, chers amis auditeurs, à votre service. Pendant la guerre, nous ne vous abandonnons pas. Nous continuons de combattre.
Sinistre radio des Mille Collines, RTLM, qui, pendant tout le génocide, a accompagné, a conseillé, a dirigé les massacres impunément, sans aucun obstacle. Je crois qu'il y a eu un tir à un moment sur une antenne de cette radio, mais jusqu'au bout cette radio a opéré et a été vraiment le bras radiophonique, peut-on dire, de ces sinistres massacres. J'aimerais bien insister aussi sur un fait, c'est que on savait. Il faudrait surtout pas que vous pensiez que on ignorait ce qui se passait au Rwanda. On l'a su très vite dans les 4 jours qui ont suivi les débuts des massacres. Les journalistes ont commencé à parler de génocide très rapidement. 2-3 semaines après le début des massacres, le génocide a été qualifié comme tel par la Croix-Rouge internationale, par les instances qualifiées des Nations Unies. Donc on savait parfaitement ce qui se passait, même s'il n'y avait pas une couverture médiatique très importante. Il y avait des réticences, notamment en France, mais il y avait suffisamment de journalistes à l'intérieur du Rwanda, comme autour du Rwanda, pour que tout le monde sache parfaitement ce qui s'y passait. Et on a de nombreux témoignages là-dessus. Il faut surtout pas que cette histoire soit une espèce de voile de lâcheté qui recouvre ce génocide. Alors, on continue avec le témoignage donc de ce militaire tel qu'il s'est confié à Laure de Vulpian de France Culture.
Ils étaient armés?
Les Tutsis? Pas du tout. Ils avaient des pauvres saguets, ils avaient des cailloux, voilà. Par contre, les autres en face, ils avaient ce qu'ils voulaient. Ils avaient explosifs, munitions, grenades, enfin la totale.
Alors une fois que vous découvrez ça, qu'est-ce que vous faites?
Là, on a rendu compte à au patron du COS, le colonel Rosier. On lui a rendu compte, il est venu immédiatement, il s'est rendu compte de la situation. On a posté différents personnels tout le tour pour protéger les gens, parce que les miliciens s'étaient postés au-dessus dans les collines pour continuer le travail, pour continuer à les zigouiller. Et on a passé la nuit avec eux pour les protéger. Et le lendemain, on a passé le bébé au 6e Reg qui est venu nous remplacer. Et on est reparti après pour d'autres missions humanitaires et ainsi de suite.
À partir de ce moment-là, votre mission est clairement devenue humanitaire.
À partir de ce moment-là, nos missions ont été clairement définies. Alors qu'au départ, on était là, on se demandait pourquoi, quoi, en touriste. On regardait les gens se faire tuer, on faisait rien, on avait le droit de rien faire. Mais à partir de l'endroit Bicicero où on a trouvé les gens qui se sont fait massacrer, là, nos chefs ont décidé de nous donner des missions d'ordre humanitaire, des embuscades, puis du renseignement, pour essayer de trouver les gens qui avaient organisé et participé au massacre.
Si vous n'aviez pas désobéi, ça aurait pu durer comme ça pendant...
Exactement. Si on n'avait pas désobéi à nos chefs, le massacre aurait pu continuer. Les 800 qui restaient seraient certainement pas là aujourd'hui.
Est-ce qu'il y avait une intention derrière ces ordres, à votre avis, ou cette information qu'on vous a donnée, cette information initiale qui était donc fausse?
De nos propres chefs, non, ils étaient comme nous, ils savaient pas. Il a fallu que nous, la troupe, on aille voir ce qui se passe pour leur dire, bon voilà, c'est pas du tout ce qui se passe, c'est ça qui se passe. C'est l'inverse qui se passe. Et là, ils se sont dit, oui, effectivement, là, il faut faire quelque chose.
Après les 3 jours, ils sont venus. Ils nous ont dit, cette fois-ci, nous venons vous sauver. Le seul espoir que j'ai eu, c'est qu'il y avait des journalistes internationaux qui venaient. On disait quand même, ils ne vont pas nous tuer. On vit aussi de ces journalistes.
Eric Zabimana, l'instituteur, qui nous a parlé à l'instant, qui avait eu ses pourparlers 3 jours auparavant avec les militaires. Mais pendant les 3 jours... entre 1000 et 1200 Tutsis ont été massacrés, et il y a indéniablement une responsabilité française.
Alors, nous nous sommes regroupés, il y avait beaucoup de blessés. Ils essayaient de donner quelques médicaments aux blessés. Nous avons amené les haricots, quelques biscuits. Mais nous avons été étonnés. Après, ils nous ont demandé, est-ce que vous voulez rester avec nous ou bien vous voulez aller dans la zone contrôlée par le FPR? Nous avons dit, nous voulons rentrer dans la zone contrôlée par le FPR, puisque c'est là où nous avons l'espoir de vivre. Si vous nous laissez ici, ce n'est pas dans votre pays, les tueurs vont nous exterminer. Alors, nous avons pris cette décision et ils ont coupé tout ce qu'ils nous donnaient comme vivre. Dira toute la période d'évacuation de Bicicero vers la zone qui était contrôlée par le FPR.
C'est-à-dire, c'est nous ou le FPR, et si vous choisissez d'aller du côté du FPR, vous vous débrouillez.
On ne se débrouille pas d'eau, pas de nourriture. Ça dirait 4 ou 5 jours, je ne me souviens pas exactement. Et pendant cette période, on devrait se débrouiller. Si vous allez un peu loin du camp, vous êtes tué par les itinérants qui étaient encore là. Alors, nous avons été obligés de nous taire, de croiser les bras, attendre l'évacuation. Nous sommes arrivés dans la zone contrôlée par le FPR, là où on a commencé à avoir l'espoir de le vivre un jour, peut-être.
Peut-être. Conclusion, provisoire, impression, piste, thèse à vérifier. Vincent Hugeux, reporter à l'Express.
En France, on en est resté au stade de la mission parlementaire et non pas de la commission. Ça n'est pas une différence lexicale, parce que les conséquences que l'on tire des conclusions de ce type d'études ou de travail ont évidemment une portée toute différente.
Alors, la mission peut s'asseoir dessus.
Absolument. Alors, d'ailleurs, ce qui est assez navrant par rapport à la mission qu'animait Paul Quillès, c'est que pour avoir assisté
Je vous coupe, excusez-moi. Cette mission à l'occasion de laquelle on est revenu en détail sur ce qui s'est passé, sur la chronologie des faits avant, pendant et après le génocide.
Et on ne peut être que d'autant plus navré de constater la modestie, sinon l'indigence, des conclusions qui en sont tirées. Et notamment sur ce thème-là, dire en quoi la France risquerait-elle l'avilissement pour simplement reconnaître qu'elle s'est égarée dans le bourbier rwandais. La France s'est rendue complice par ce mélange donc d'aveuglement, de cécité politique, de fidélité obsidionale à un régime à bout de souffle, de manque de considération pour des documents qui existaient, qui ont jauni dans les tiroirs. Donc c'est ça, mais ça, je veux dire, en quoi, encore une fois, est-ce qu'on dévaluerait notre identité française et républicaine? Au contraire, je pense qu'on la restaure et qu'on la sauve d'une certaine manière. Donc je ne désespère pas.
Et par respect aussi vers Simaron Karamaga et ses proches et tous les autres qui sont plus là.
Le fameux devoir de mémoire que l'on décline maintenant à tous les modes et à tous les temps, à temps et à contre-temps, là, à mon sens, il n'est pas dépourvu de fond et de sens. Oui, je crois que s'il y a un devoir de mémoire, il est aussi là.
Un certain nombre de pays, dont la Belgique, et aussi les États-Unis ont demandé pardon, ont compris ce qui s'était passé, même si c'est insuffisant, même si. En tous les cas, la France, rien. La France n'a rien dit. C'est pas nouveau, mais c'est là. Et ça nous hante, un certain nombre, hantés par cette histoire, ici comme au Rwanda.
Quelle image vous avez de la France maintenant?
Je sais pas, la France ou le gouvernement français?
Déjà, c'est bien de faire la différence.
On peut faire la différence. En tout cas, ce que je veux dire, moi, je ne peux pas comprendre pourquoi ils sont retournés à Kibuye. Alors que les gens étaient en train d'être tués. Ils nous ont laissé crever. Il y a eu un génocide qui était préparé, organisé et exécuté par le gouvernement à l'époque. Je crois qu'ils ont honte de dire quelque chose. Bon, il faudrait que les Français reconnaissent leur rôle et qu'ils essaient au moins de réparer ce qui a été abîmé lors du génocide. Comme d'autres pays, comme la Belgique, a reconnu sa responsabilité. Il faut que la France reconnaisse sa responsabilité. Il n'y a pas autre chose à faire. On ne peut pas leur demander de ressusciter les personnes qui ont été tuées. Par exemple, moi-même, il y a un instituteur, un collègue à moi, on fréquentait le même établissement. Il a écrit une lettre, je l'ai chez moi. Il a demandé pardon, je lui ai pardonné. Et au moins une fois chaque mois, je lui envoie un peu de sucre à la prison.
Du sucre?
Je lui rends visite, oui. Il m'a dit que c'est lui qui a tué ma soeur. Il a reconnu sa faute. Il demande pardon de ce qu'il a fait pour moi. Il a tué ma soeur.
Et vous lui envoyez du sucre? En prison.
Certainement. Donc une fois on demande pardon, on doit pardonner. Même la France, si on demande pardon, elle peut être pardonnée. Et qu'il nous aide à faire en sorte que ce génocide ne recommence plus au Rwanda ou ailleurs.
Merci à tous, merci à Eric Zabimana, merci à Siméon Karamaga, à Zachary, Frimoun, Antoine, François, Narcisse, Aster, Alice, Alexis et tous ceux de Bicécéro. Merci à Laure de Vulpian de France Culture, à l'adjudant Prugnot, à Vincent Hugeot de L'Express et à Patrick de Saint-Exupéry du Figaro. Merci à François-Xavier Verchave de l'association Survie. Traduction Maurice Nyarou-Irira. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission La Basse et J'y suis. Technique aujourd'hui, Lidvine Caron et Stéphane Devernay. L'équipe de La Basse et J'y suis, c'est Antoine Chao, Yann Chouquet, Raphaël Mouterde, Pascal Le, Pascariello et Christophe Imbert. Le numéro du répondeur de l'émission, c'est 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Le mail, daniel.mermet@radiofrance.com. Et c'était un reportage de Guy Ventil. Dans 1 minute et 33 secondes, vous retrouvez Frédéric Bonneau et
son charivari. Et nous, on se retrouve demain à 17h pour la Bastille J'y suis. Salut.